Et donc, moi, je l'ai soutenu. Hein. Il a fait une thèse au Chanfreinien. Hein. Bon, donc, il y a quoi? Il y a une préface qui a un peu vieilli, mais qui est pas mal, et qui est le point de départ de l'article que j'ai mis sur le narcissisme dans le site internet là, que je suis en train de monter. C'est-à-dire, ça s'appelle « Afin de préciser le narcissisme ». C'est les symétries des cubes et les symétries des objets de dimension 3. Bon. Donc déjà, Listing, il s'occupe de ça. Et puis, il s'occupe des nœuds. C'est lui. Et alors, figurez-vous, c'est ça qui n'a pas échappé à Lacan. C'est pour ça que c'est amusant, l'histoire du nœud de Lacan, parce que le nœud qui est dans la thèse de Listing, c'est tout le temps le nœud comme ça qui a trois croisements, là. Vous voyez ? Dans ces différentes... Listing, il se pose la question de ces différentes présentations de ce nœud. Bon, donc si vous voulez une référence à ce qui est dans Lacan, hein, pour vous mettre un peu au parfum des enjeux qu'il y a dans tout ça, les quatre premières figures du séminaire Le Symptôme, elles se trouvent déjà dans la thèse de Listing, qui est la première thèse universitaire faite en Allemagne en 1845, où on emploie le mot topologie, s'il vous plaît. Hein. Avant, on disait analysis situs, on va le dire encore un peu, mais la première occurrence de topologie dans un écrit scientifique, c'est la thèse de Listing. Et c'est le premier petit bout de fragment d'une étude de quelque chose de noué. Je vous explique tout de suite pourquoi il s'intéresse à la symétrie dans l'espace et il s'intéresse à l'orientation des objets dans l'espace. C'est très important pour le narcissisme si vous lisez mon article. Vous verrez, hein, ça, c'est ce qui vous permettra de découvrir la fonction du nom du père dans le miroir. Bon, la fonction d'une dimension qui n'est pas cachée, comme dit Hall, là, les Américains, ils cherchent la dimension cachée. Freud, il l'a découvert depuis longtemps, la dimension cachée, c'est le phallus. Ouais. Seulement le problème, justement, c'est pour ça qu'on l'appelle la dimension cachée, parce qu'elle s'accompagne immédiatement de son occultation. Ça s'appelle la castration de l'autre. Hein. Ça peut donner des angoisses à ceux qui pensent que ça va les concerner. Bon, ça nous concerne tous, hein, c'est le Père Noël. Mais n'empêche que c'est pas la dimension cachée là qu'il s'agit, c'est la dimension... Cette dimension, Listing, il s'intéresse à la dimension qu'on trouve dans le miroir. C'est pour ça que je pars de Listing pour calculer, pour vous montrer comment ça fonctionne la lettre. Comment on peut arriver à une espèce de réduction, de simplification avec le théorème qu'il faut démontrer là, sur la symétrie des objets de dimension 3. Ça devient extrêmement trivial. C'est-à-dire que si on écrit bien le problème, au début il est écrit d'une manière trop compliquée. Alors voilà, vous voyez, là on a vraiment une loi qu'il faut que vous fassiez rentrer dans vos préoccupations psychanalytiques, parce que vous avez une loi qui est énoncée par Pascal, hein, qui dit que plus on écrit quelque chose qui devient limpide pour le sujet qui écrit, plus ça devient compliqué pour les autres. Lisez ça, c'est dans les pensées de Pascal. Je ne vous dis pas la référence, parce que je ne la sais plus. Mais... Donc, c'est quand même un rapport inverse, vous voyez. C'est que plus le mathématicien va trouver ça simple, plus celui qui n'est pas rentré dans... C'est pour ça que dans l'enseignement, il faut raconter des bobards, il faut raconter des fables, des histoires, il faut de la langue pour apprendre à faire des mathématiques. Parce que sinon, plus on regarde le truc déjà fait, vous voyez, le narcissisme, il n'y a plus aucun travaux de mathématiques qui permettent à des gens qui veulent faire de l'optique, par exemple, de s'y retrouver, parce que l'optique en mathématiques, c'est devenu entièrement algébrique, avec la théorie des groupes. Et moi, ce que j'ai fait dans cet article, c'est comment un problème de géométrie illustré avec le miroir et un cube et une orientation d'objet, comme ça, qu'on peut voir, manipuler, comment petit à petit ça va s'écrire et puis ça va fondre dans l'écriture. Ça va arriver avec une écriture de plus en plus, on va dire, adéquate. Et plus l'écriture est adéquate, plus le type qui est dans le coup, qui s'adonne à cette espèce d'ascèse, qui est une horreur, puisque je veux dire c'est absolument symptomatique. Plus on rentre dans cette ascèse, plus c'est le problème, le symptôme qui va donner la solution et qui va faire que à la fin la démonstration Saint-Paul Kepler, vous m'avez dit que quand vous avez vu le graphe, vous avez vu le petit graphe à la fin, c'était tout réduit à ça, à rien, entre S1 et S2, n'est-ce pas? Bon, ça se réduit à un petit graphe qui est une banalité. Hein? Donc, la difficulté de démontrer, finalement, elle a disparu. On a la raison, mais la raison, elle s'est produite dans une ascèse d'écriture. Plus ça s'écrit, plus ça devient facile à démontrer, mais plus c'est difficile à lire quand on n'est pas au courant, on ne reconnaît pas le truc. Alors, il faut refaire le chemin. Et puis, chacun doit faire le chemin, comme ça, on le sait dans l'analyse. Il ne faut pas compter sur le chemin des autres. C'est pour ça que c'est très bien de le présenter formellement, parce que chacun peut faire le chemin qu'il veut. Moi, je suis d'avis que ce qui est traumatique, c'est les solutions qui viennent trop vite. Hein, la scène primitive, la dispute des parents, ce qui est traumatique pour les mômes, c'est quand ça vient trop vite. C'est là, quand ils ont une solution à l'Oedipe qui leur est donnée, clé en main, digeste. C'est ça qui est traumatique. Donc, je suis en train de vous dire qu'on est dans une situation de fou parce que c'est tous des employés qui sont des belles âmes, au sens de Hegel. Et en plus, on est de plus en plus traumatisés, ce qui fait que les mômes, ils vont être de plus en plus incapables de faire des études, parce que si on leur donne tout digeste, sous prétexte qu'il ne faut pas qu'ils aient des angoisses, ça c'est Milner qui a gueulé contre ça autrefois, dans un livre qui s'appelait « De l'école », bon, moi je pense pas qu'il faut... Ah, évidemment, il y a eu des profs pervers, il faut gueuler contre les profs pervers. Non, pas pervers, fous. Voilà, des profs pervers, fous. Les deux. Vous voyez, qui voulaient atteindre les sujets avec le fétiche de leur discipline dans leur subjectivité. Et moi, je sais que, par exemple, Miller, il m'a confié qu'il avait eu affaire à un mec comme ça, comme prof de logique à l'école normale. Un type que j'ai connu, moi, comme prof. Le genre de prof que je déteste. Vous voyez, le mec, il veut prouver à ses élèves qu'ils sont des cons. C'est une horreur. Ben, c'est très facile, parce que c'est vrai que quand on est assez jeune, on est con. Bon, mais lui, il n'était pas très jeune, il était très con aussi. Bon, toujours est-il, ce mec-là, bon, et puis Thomé et Souris m'ont dit qu'ils avaient fait le même coup à Miller, ils lui ont fait bien comprendre qu'il comprenait rien au cours de Guilbeault. Alors voilà, la psychanalyse, elle est embarquée, comme ça, par ce pauvre Miller qui a été traumatisé par les logiciens et les mathématiciens. Vous voyez quoi, à quoi tient la vie des gens, c'est quand même terrible, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une réglementation des psychothérapies au lieu d'avoir un discours analytique florissant qui pourrait dire ce qu'il est, qui l'avouerait, qui n'aurait pas honte, qui raconterait à tout le monde que oui, la psychanalyse, c'est pas obligé, mais si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, faites-le, voilà. La porte est ouverte dans les deux sens. Et puis, on ne va pas vous faire de trucs tout digérer à l'avance. Voilà. C'est pas la sexologie, c'est pas des recettes. Il faudra que vous inventiez comment faire avec madame ou monsieur, voilà, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est qu'on n'en veut plus, parce que nous sommes dans une civilisation, pas de risque et tout est digeste. C'est quand même effrayant, Internet. Vous avez vu le nombre de trucs. C'est quand même magnifique d'avoir accès à autant d'archives et de ne pas savoir quoi en faire. C'est formidable. Bon. Alors moi, je vous dis, Lacan, il fait des choses amusantes parce qu'il reproduit ce que fait Listing comme ça pour commencer son séminaire Le Symptôme. Allez vérifier dans la thèse de Listing publiée par Navarin. Ça se trouve rue Huysmans. Vous pouvez la photocopier s'ils n'en ont plus d'exemplaires à prêter. Vous verrez dans cette thèse de Listing que Listing, il donne pas de nom à ce nœud. Et alors, figurez-vous, comme ça arrive souvent dans l'histoire des... Eh bien, c'est que les mathématiciens ont donné, ils n'ont pas été très regardants, ils ont donné comme nom de nœud de Listing, justement celui que Lacan met là, dans sa leçon numéro 7. Ça, c'est le nœud de Listing. Alors, il dit, puisqu'ils ont appelé le nœud qui n'est pas dans Listing, ils l'ont appelé le nœud de Listing, celui qui est dans Listing, appelons-le le nœud de Lacan. Voilà pourquoi il s'appelle le nœud de Lacan. C'est un joke privé de Lacan, que je trouve charmant, et... Bon, par contre, c'est vrai qu'il a des propriétés, on va voir lesquelles. Il a quelques propriétés. Ne vous laissez pas leurrer seulement par l'anecdote. L'anecdote, elle est authentique. C'est du genre de Lacan que de dire, voilà, c'est le nœud de Lacan. Mais lui, il dit ça en disant, c'est pas grave. Ne vous montez pas, ne vous prenez pas du col, c'est pas si important. Bon. Alors voilà, la question que nous allons découvrir dans ce passage... C'est comment passer de ces chaînes. Voyez-vous, là, il s'agit d'un jeu de chaînes, des chaînes borroméennes qui sont ratées, des chaînes borroméennes qui sont ratées, qui sont réparées par des suppléances, un ratage. Ici, la suppléance, c'est une réparation, ou la réparation est une suppléance, je ne sais pas comment vous voulez parler. Lacan parle de suppléance et de réparation. Et puis, le quatrième rond de la chaîne de Freud. Alors, comment... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pourquoi Lacan n'a pas présenté ça comme ça? Voilà. Ça, je vous dis, ici vous avez l'explication avec ce dessin-là et ce dessin-là. Ça, c'est dans la leçon numéro 11. Ça, c'est dans la leçon numéro 11. C'est tout à la fin. Pourquoi Lacan attend la leçon numéro 11 pour donner ça? Alors que les autres figures, les autres, elles sont dans la leçon numéro 2. Vous voyez, vous avez la leçon numéro 2 qui est. Où vous avez toutes ces figures qui sont lacunaires, qui sont seulement comme ça, présentés d'une manière comme ça, lacunaire, et qui sont une évocation. Et même, il y en a une, celle-ci, qui n'est pas commentée par Lacan. Comment j'ai pu reconstituer ça? Parce que Lacan présente ses figures et ses questions depuis la troisième, à Rome, et dans les séminaires précédents, dans les noms du père et dans RSI. Bon. Donc ça, c'est le, disons, c'est le principal du séminaire Le Saint-Aune. Hein. Et c'est sur cette, question de... Du symptôme Freud qui s'appelle Oedipe, Lacan a dit l'année précédente que ça c'était juste la situation de Freud qui avait réussi dans le paranoïa qui échoue de cette manière, hein, en ajoutant l'Oedipe, c'est-à-dire le quatrième rond, puisque Lacan dit en 67, hein, c'est-à-dire c'est aussi un élément de référence, il dit en 67 dans, le discours, dans sa proposition de 67 sur la passe, là, sur le psychanalyse de l'école, il nous dit, Lacan, Retirez l'Oedipe du discours de Freud et vous avez un délire susceptible de la structure du délire du président Schreber. Donc voilà ce qui me fait dessiner et écrire ces deux, hein, ces deux dessins. Ici, c'est le ratage de Schreber, les points à l'infini ayant affaire à un triskel, les points à l'infini, les rats, qui fait une chaîne qui ne tient pas. C'est la psychose paranoïaque que Freud répare d'un quatrième rond qui s'appelle l'Oedipe. Retirez l'Oedipe de ce dessin, de cette chaîne à quatre de Freud. Chez Freud, ça commence à quatre, c'est ce qu'il dit dans RSI, Lacan, et vous avez Schreber. Bon, les ronds sont libres. Mais maintenant, pourquoi Lacan ne fait pas ça? Parce qu'il est tracassé par autre chose, parce qu'il est tracassé par cette nouvelle économie qu'il veut introduire, et il est bien embêté parce que, en plus, Souris et Thomé lui le harcèlent un peu, et quand il pose une question à la fin de la deuxième leçon, hein, où il appart encore une fois, il a essayé de dire ça et il n'arrive pas à le dire, et puis il dit autre chose que je vais vous commenter petit à petit, hein, par exemple il parle des triskels comme dans RSI, hein, vous voyez, à chaque fois que Lacan met la sphère armillière, c'est qu'il est en train d'essayer de vous parler des triskels. Dans cette leçon numéro 2, il y a aussi la sphère, à côté, il y a la sphère armillière, et puis là, il parle des choses qui cognent, les ronds qui se cognent entre eux, dans la chaîne borroméenne, dans la présentation armillière. Bon. Ça, vous le retrouverez dans la troisième, vous le retrouvez l'année précédente, vous le retrouvez dans RSI. Dans RSI, c'est à l'occasion de ces dessins-là, de ce dessin qui est complètement raté. Ce dessin-là est complètement raté. C'est la leçon de RSI numéro 4, du 21 janvier 1975. C'est complètement raté. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire, Lacan, avec ces trucs qu'il a mis aussi? Vous avez ça dans la troisième aussi. Ça, j'ai expliqué ça dans un colloque de l'école Sigmund Freud. Hein. C'est paru c'est dans mon site internet. C'est les deux derniers textes. Hein. Une intervention à Lally, une intervention à l'école Sigmund Freud. Bon. J'explique ces choses-là comme des découpages de surface. Pourquoi? Parce que vous voyez, Lacan, ce qui l'intéresse, ce qu'il fait, c'est ça. Avec ses sphères armillières. C'est un triède tri-rectangle de trois plans qui se coupent, qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former huit triskels. Il en parle à la fin, dans les dernières leçons des noms du père, il en parle dans la leçon numéro, donc, que je viens de vous dire, la numéro 4 de RSI. C'est un truc lancinant chez lui, c'est permanent, il revient là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de parler de la mise à plat du nœud. Comment se fait-il qu'il y ait huit triskels comme ça, dans le nœud borroméen? Vous voyez, il y a un triskel dans chaque coin là. Il y en a huit. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un truc auquel je consacrerai un peu plus de temps par la suite. On reviendra là-dessus. C'est très facile à construire. Vous voyez, c'est des plans qui se coupent d'une manière borroméenne entre eux. Bon. Et ça, ça se met à plat, comme ça. Ou ça se met à plat de plein de manières différentes. Hein. Et vous voyez, quand ça se met à plat, il essaye de montrer comment on fait apparaître quoi. Eh bien, dans le nœud borroméen, je repasse à l'autre figure, à l'autre tableau, ça c'est une chose extrêmement importante, mais on va voir, ça embête beaucoup Lacan, c'est ça, c'est que dans le nœud borroméen, voyez-vous, on a une présentation en perspective, dans la sphère armillière. D'ailleurs, à ce moment-là, quand Lacan parle de ça, il parle, c'est très curieux, ce qui lui vient dans son commentaire, c'est une référence à Schopenhauer. Il dit, vous voyez là, cette chose-là que je vous montre dans l'espace, Il dit c'est ça, ça participe de votre monde et de votre représentation. Vous savez, le monde comme désir et comme volonté et comme représentation, c'est Schopenhauer. Il fait une référence à Schopenhauer bizarre, là, vous voyez. Votre monde comme représentation, il dit dans le texte. Et puis, alors voilà, il parle de ça, mais c'est pourquoi il parle de ça? Parce que, vous voyez, ici, vous avez 8 triskels. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis il y en a un qui est tout autour, celui qu'on oublie toujours. Le huitième, c'est le triskel réel. C'est celui qui est impossible à penser parce qu'on est dedans. C'est ça la droite infinie, le refoulement originel. L'urverdrang. C'est le triskel. Vous voyez, vous envoyez 7 des triskels, et bien il y en a un qui est autour. Si vous dessinez ça sur une sphère, vous verrez qu'il y a, ça c'est exactement comme ici, il y a 8 triskels, il n'y en a pas 7. Bon, il suffit de dessiner sur une balle de ping-pong ou sur une balle de plus grosse de tennis ou sur un ballon, si, je ne sais pas, comme vous voulez. Bon, mais je peux dessiner ces choses-là, mais je ne vais pas faire ça tout de suite parce qu'il faut qu'on avance pour arriver à voir quel est l'enjeu de ce vers quoi nous conduit Lacan. Il nous conduit dans la troisième leçon, il n'arrive pas à faire ça, il n'arrive pas à nous présenter ce qu'il a annoncé dans Joyce le symptôme, Joyce hystérique, ce qu'il a. Bon, qu'est-ce qui l'occupe? Bon, là, d'abord, il y a une chose qui l'occupe, hein, c'est qu'il refait un remake du séminaire 6, le désir et son interprétation. Bon, donc j'ai proposé qu'on relise le désir et son interprétation, on l'a lu il y a 2 ans. Déjà, quand j'ai commencé à traiter du symptôme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le désir et son interprétation, déjà, Lacan parle de Œdipe et de Hamlet. Donc, quelle est la différence entre Œdipe et Hamlet? Ça, c'est une chose importante. Hein, c'est quelque chose qui court dans toute cette histoire. Je vous ai cité le livre de Jones, qui s'appelle Œdipe et Hamlet. Et puis l'article l'Œdipe impatient de. Hamlet impatient de. De, comment s'appelle-t-elle, madame? Comment? Charpe, oui, c'est ça, Ella Charpe. Parce que c'est à propos d'un rêve d'Ella Charpe qu'il engage son commentaire de Hamlet. Bon. Mais sans ça, au point où nous en sommes, il y a Œdipe et Hamlet, il va falloir revenir là-dessus. Bon. C'est comme le symptôme, je vais dire que bon, le symptôme, depuis que je le répète, vous avez entendu, c'est l'ancien système de production, c'est le symptôme en latin qui revient dans le symptôme, le nouveau régime économique qui s'appelle le symptôme en grec. À une certaine époque, on a commencé à écrire le français avec des lettres grecques. On a insufflé du grec. Bon. Il y a un symptôme médiéval et un symptôme moderne. Le symptôme, c'est la survivance d'un ancien système de production dans le nouveau. Ça veut dire que la parole du roi Arthur, ça continue, malgré aujourd'hui qu'on veuille la faire disparaître, la parole complètement, derrière les organismes et les machines, dans le silence dogmatique des sphères célestes. Vous voyez que la psychotisation du monde industriel global, c'est ça. Eh bien, c'est très amusant parce que ça survit, la parole. La parole du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, tout ça, ça survit dans c'est ça le symptôme, dans le nouveau système de production. On a beau aujourd'hui être dans un système capitaliste dans lequel on vous fait le coup de quoi? Ben de la marchandise. Hein. C'est la dégradation du grand autre au petit autre. Là. Le roi Arthur qui parle, c'est devenu la marchandise, l'objet de titane. Vous voyez? Le travail lui-même est devenu une valeur marchande. Lacan, il n'a pas vu, mais il y a un bel exemple de symptôme quand même qui s'est produit après la mort de Lacan, auquel tout le monde a applaudi et a voulu participer. C'est un truc qui s'appelait Solidarnosc. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça a quand même fait tomber le mur de Berlin du fait du pape catholique. Hein. Ils sont vachement forts, les catholiques. Plus forts que les autres. Hein. Le gendre, il a raison de se marrer. Quand il voit les protestants qui font du management, c'est ridicule. Et les catholiques, ils en savent un bout. Bon. Eh bien, regardez, ils ont fait Solidarnosc. Est-ce que vous avez jamais pensé que ces types, ils se sont précipités pour soutenir Solidarnosc? Que la solidarité, c'est un truc hétérogène au capital. C'est contradictoire dans les termes, la solidarité. Il n'y a que des curés catholiques qui peuvent imaginer de faire un slogan de casse solidarnosc. Parce que si le travail est devenu une valeur marchande, bon, je sais bien, il y a Keynes qui dit qu'il n'est pas d'accord, on peut discuter, mais le problème, c'est que si jamais la marchandise, le travail est devenu une marchandise, vous ne pouvez plus aider vos voisins à peindre vos volets. C'est volé. voyez, vous ne pouvez plus aider votre copain à déménager. Je sais bien, nous, on a fait ça parce qu'on était baba cool, et puis nos enfants font ça parce qu'ils sont bobos, mais on continue à résister. Enfin, on continue à avoir des symptômes. On n'est pas tous des exécutifs, des employés, modèles. Mais c'est complètement la solidarité. Si votre travail, c'est une valeur marchande, vous n'êtes plus du tout... Parce que les serfs, là, dans l'esclavage, je ne vais pas faire une apologie de l'esclavage, hein, loin de là. Mais quand même, il faudrait parler sérieusement des choses. L'esclavage a disparu parce que le capitalisme s'est installé. Lisez Klossowski, la monnaie vivante. Dès la première page, il explique. Hein. Quand on a pu se faire un calcul précis de ce que coûtait le travail et le rendement, on savait qu'on pouvait verser un salaire à l'ouvrier, on n'avait plus besoin d'avoir à l'entretenir comme propriétaire de son corps. C'est pas une démarche humanitaire. C'est pas comme Pinel et Esquirol, la fin de l'esclavage. C'est une conséquence du calcul intégral et différentiel de Leibniz. Bon, il faudrait quand même être sérieux. Et bien pourtant, le symptôme résiste et il y a quand même des gens qui se conduisent encore, qui voudraient encore être des esclaves. Et moi, je pense que même dans la psychanalyse, on est des esclaves. Alors là, on n'est pas des employés. Mais on n'est pas forcément écolo. Mais c'est vrai que, bon, il y a une subversion du capitalisme dans la psychanalyse. Ça, on en parlera après. Mais déjà, il y a une chose qui est antinomique avec le capitalisme, c'est la solidarité. Ça veut dire que chez ceux qui essayent, on n'est pas contre l'emploi parce qu'on veut, les conditions de travail sont trop dures, mais trop boulot dodo. C'est parce qu'on est rendu fou par le fait d'être employé, vous comprenez? Et donc, on est déresponsabilisé. On vous dit, on vous paye, vous avez qu'à vous conduire comme des chiens ou des chiennes là, pour mordre les gens avec un téléphone de la standardiste au patron. Faut casser la gueule, il faut passer la main dans le dos. C'est ce qu'on apprend quand on fait du marketing. Il faut passer la main dans le dos, dans le sens du poil, aux gens qui sont des bons clients, parce qu'ils ont du pognon, il y en a à faire venir par là. Et puis les autres, ceux qui n'en ont pas, ben alors ceux-là... Hein. Donc les œuvres humanitaires, ça intéresse justement ceux qui résistent. Bon. Alors il faut leur expliquer à ceux qui résistent, qui sont symptômes dans le symptôme. Hein. C'est qu'il ne s'agit pas de retourner au monde médiéval ni à la pensée sauvage. Moi, j'ai une admiration folle pour la pensée sauvage. Hein. Parce que justement, Lacan a dit dans le séminaire 11, hein, l'inconscient freudien et le nôtre, c'est quoi la différence? C'est que l'inconscient pour nous, c'est la pensée sauvage, sauf la totalisation. Parce que dans la pensée sauvage, il y a une tentative de totalisation à l'horizon. Hein, ça cherche à se clore. Alors que nous avons la pensée sauvage sans, et vous lirez les très belles pages, la deuxième leçon du séminaire 11, la belle page de Lacan sur le cri qui fait apparaître le silence comme silence à propos de la totalisation. Ça, c'est la pensée sauvage. Bon, et donc c'est pour ça que je vais vous reparler de Lévi-Strauss dans ce qui suit, hein, et des formules de Lévi-Strauss que Lacan a résolu, si vous voulez, en suivant les indications donné par Lévi-Strauss, c'est la disposition de tout le monde, hein, pas des communications particulières. Mais on voit bien que l'effort de Lacan, il est de répondre aux questions que Lévi-Strauss pose en matière d'économie du signifiant dans la structure du mythe, les textes de l'anthropologie structurale, le premier volume surtout, puis dans le deuxième, parce qu'il y a l'histoire de race et l'histoire. Et puis, dans la pensée sauvage elle-même, le titre de l'ouvrage qui bouleverse la science, l'analyse des mythes, et puis dans les mythologies, et ensuite dans la paupière jalouse, il revient là-dessus. Alors Lévi-Strauss, il peut bien se moquer du mythe de Totem et Tabou, il n'a pas complètement tort d'ailleurs, mais il a trouvé un mythe Jivaro qui est le même que le mythe de Freud, alors il fait une plaisanterie, et il montre que Oedipe, c'est la même chose que le chapeau de paille d'Italie par exemple. Vous voyez, voilà le genre d'analyse structurale. Mais donc c'est des choses que Lacan a prises très au sérieux pour préciser justement ces articulations dans lesquelles il nous conduit, qui répondent à des questions que posées par Jacobson par Lévi-Strauss, moi je pense, et il les modifie. Bon. Et c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut se diriger. Bon. C'est-à-dire que c'est éminemment nécessaire, je dirais, pour nos symptômes, hein, pour situer nos symptômes, parce que n'oubliez pas que Lévi-Strauss est un lecteur de Marx, compétent. Bon, l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, elle est défaite. Pourquoi la pensée de gauche, que Lacan il dit que la gauche, c'est des débiles. Enfin, c'est vrai. Lutter contre la langue, hein, puisque la langue, elle dit que la droite, c'est mieux que la gauche. Hein, les droitiers, c'est mieux que les gauchers. c'est débile que de ramer contre le courant et dire qu'on est de gauche. C'est pour ça que Lacan, il dit, moi, je suis pas de gauche. Mais on n'est pas obligé d'être de gauche, on peut être progressiste. Hein. Il dit, je suis seul à être progressiste, d'ailleurs. Donc, la droite, c'est des canailles, parce qu'ils profitent de la langue pour dire que ce qu'ils font, c'est mieux.
C'est une religion un peu élitiste.
Comment c'est ?
Une religion un peu élitiste.
Quoi non ?
Je suis seul à être progressiste.
Non, mais parce qu'à ce moment-là, ils pensent que le seul discours analytique est vraiment un discours progressiste et qu'il est tout seul à parler. Bon. Mais le problème, c'est que ça dépend de nous de devenir lacanien et freudien. Hein. C'est une question de décision. Hein. Bon, moi, je pense que c'est accessible. On le verra peut-être pas parce que ça va mettre du temps, je vous dis. Les gens plus jeunes que nous, ils vont avoir beaucoup de difficultés si on les abandonne. Mais n'empêche que je crois que ça va devenir une nécessité. Alors, le point, il est surtout de dire que droite et de gauche, donc Lacan, il se moque de la droite et de la gauche en disant que c'est des canailles et des débiles, et que dans les organisations de masse, de groupe, c'est l'inverse. Les organisations de gauche sont des canailleries et les organisations de droite sont débiles. Bon, c'est ce qu'on voit toujours aujourd'hui. Regardez comment ça se passe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas des insultes gratuites, puisqu'il faut quand même se rendre compte que dans la langue, vous avez deux articles extrêmement intéressants de Littré sur le mot droite et le mot gauche. Dans un petit livre, il a fait un petit livre Littré à la fin de sa vie dans lequel il écrit tous les problèmes de langue et d'étymologie qu'il a rencontrés dans sa carrière. C'est un tout petit livre qui fait, qui fait 30 pages, et dans lequel il a rangé droite et gauche. Et il est très préoccupé, comme on devrait l'être, par le fait qu'effectivement, il y a un différentiel dans la langue qui fait que la droite, c'est privilégié, et la gauche ne l'est pas. C'est exactement la même chose que la différence entre homme-femme, d'ailleurs, hein, donc dans le genre, par exemple, dans la langue. Et vous voyez que c'est la même chose entre la vérité et le mensonge, mais pas tout à fait la vérité et le mensonge, entre la vérité et les choses fausses, les choses vraies et les choses fausses. Les choses vraies, c'est ce qu'on doit dire, et les choses fausses, il ne faut pas les dire. Bon. Hein, et la rumeur que ne comprennent pas les sociologues, c'est que justement, c'est un fait d'énonciation. Il n'y a que la psychanalyse qui dit bien ça. C'est pas tellement élitiste de faire remarquer que Freud, il n'est pas élitiste. Il dit à tout le monde, c'est le phallus, c'est la fonction phallique, ça fascine tout le monde depuis l'Antiquité, mais depuis que les humains ont une force collective, ils ont planté des cailloux dans des champs. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça plutôt que des temples, avant de faire des temples? Bon, il y a bien des déliants qui vont vous raconter qu'ils étudiaient le magnétisme terrestre, ils sont déjà branchés sur la droite infinie, vous voyez. C'est les épiphanies, soi-disant, néolithique, ou je ne sais. Mais n'empêche que les types, ils ont planté des cailloux droits. Pourquoi ? Parce que la dimension 3, c'est quelque chose qui fascine, et il y a toujours un différentiel qui s'établit dans les mots, et c'est ça dont il faut rendre compte, justement, avec le narcissisme et la face phallique et la castration. Bon, c'est ce que j'essaye de faire d'une manière absolument audible pour tout le monde, mais ça nécessite que chacun fasse son chemin. Pourquoi ? Parce que c'est tellement con, tout le monde le sait. Regardez, ce que découvre Freud, le narcissisme, tous les médecins savaient que les patients parlaient mal de leur corps. N'importe quel médecin, n'importe quel type qui a un peu de clinique médicale, il sait très bien que les gens qui se plaignent de troubles dans le corps, ils déconnent à plein tuyau, ils ont mal au coude, mais que ça, c'est la cause. Et en plus, la neurologie, ça a été un miracle, une merveille pour les médecins. Parce que tout à coup, ils ont une explication. Là, il y a une petite boule qui se met là, et hop, vous avez mal dans les hanches. Bon. Alors, c'est génial. Bon, mais seulement le problème, c'est qu'au lieu de la neurologie, qui est une très belle clinique, hein, grâce à la dissection et à l'observation, ça fascine beaucoup les kinés, les médecins, la clinique neurologique. Et bien, vous avez un neurologue comme Freud, lui, il a inventé autre chose. Il a inventé la psychanalyse et il a découvert le narcissisme. C'est-à-dire qu'il écrit, il dit, il explicite, encore d'une manière dogmatique, mais il explicite ce qu'on sait depuis toujours en médecine. Bon. Et ensuite, l'autre grande découverte, l'autre grand résultat de l'observation, de l'analyse de Freud, c'est quoi ? C'est 1923, la face phallique qui va venir buter sur le roc de la castration. Vous voyez bien que toutes les nourrices savent très bien depuis toujours, il n'y a que les docteurs qui ne le savaient pas, qui ne s'intéressent pas aux lardons, mais les enfants, ils disent que leur maman a un phallus, ou ils font des trucs bizarres avec... Ils font pas que de la grammatisme, ils font des expériences très intéressantes pour savoir qu'est-ce que peuvent faire les appendices du corps. Bon, donc on le sait depuis toujours. Le seul problème, c'est que on l'a jamais écrit d'une manière savante. Et Freud, il l'écrit d'une manière savante avec un style en allemand, un style qui lui est propre. Vous voyez. Et donc la langue commence à prendre toute sa portée et son importance. La langue parlée et la langue écrite. Mais l'écriture, c'est pas un duplicate. L'écriture, elle va jusqu'aux mathématiques. Et donc, on ne peut pas avancer là-dedans si on ne va pas buter sur ce fantasme. Voilà, ça s'appelle le fantasme. C'est une écriture du symptôme. Le symptôme n'est pas une écriture. Le symptôme, c'est un ratage. C'est un ratage et une suppléance. Donc, pour arriver à résoudre, pas seulement le ratage et la suppléance, pour arriver à résoudre sans totaliser à l'horizon, sans totalisation aucune, sans complétude. L'exemple majeur du fantasme, c'est la formule de Newton. Les théologiens, bon, nous on est complètement abrutis par le positivisme de Comte, mais quand même en physique, les jeunes Italiens savent mieux que les jeunes Français. D'ailleurs, moi j'ai remarqué ça en parlant avec des jeunes Italiens, des étudiants, des lycéens italiens. Ils ont la tradition galiléenne comme ça, parce que c'est italien, quoi. Bon, nous en France, c'est la tradition comtienne, alors on ne comprend rien. Et donc, ce qu'on sait quand même, c'est que ce qu'on peut savoir, c'est ce que explique très bien Coiré, c'est que la gravitation, bah, c'est un gouffre, puisque on ne sait pas comment une particule peut savoir, ou une planète, ou n'importe quel corps peut savoir à quelle distance il est d'un autre corps, et que justement les corps, ils vont s'influencer à distance en fonction justement de la distance et de leur masse, et puis d'un coefficient de gravitation. Bon. Mais qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui. On a inventé le dieu de Newton, on l'a appelé le champ de gravitation. Mais le champ de gravitation, personne ne l'a jamais trouvé. Regardez, si vous lisez le livre sur la théorie des nœuds qui est paru chez Au Seuil, là, qui traite dans son dernier chapitre des travaux de Vittem. Oui, Vittem, c'est un Américain dont a rendu compte le séminaire Bourbaki. Il y a deux communications de Gramin sur la théorie des nœuds dans Bourbaki, c'est tout. Hein. C'est les travaux de Vittem. Et Vittem, qu'est-ce que nous raconte l'auteur? Il nous explique que Vittem, il fait lui aussi toujours de la théorie des nœuds. Pourquoi? Parce qu'il cherche la théorie unitaire des champs. Il cherche. Vous voyez, on a fait tout l'électromagnétisme, comme l'explique Lacan dans Radiophonie, a été fait pour répondre à la question comment peut-on construire un modèle de la gravitation, de l'univers? Bon, dans Newton, il y a quelque chose de réel, il y a quelque chose qui est écrit, hein, mais qui est impossible à expliquer. C'est qu'on ne sait pas comment. Les particules savent. Alors, Einstein, il a bien fait des modèles hyperboliques, il a cherché à montrer que les billes roulaient dans des entonnoirs, des choses comme ça. Bon, mais tout ça, il n'y a pas d'achèvement. Et bien, le fantasme, c'est comme ça. Le fantasme, c'est une formule qui conserve, qui va cerner l'ombilique. Le truc où on va perdre son latin. Voyez. Et c'est pour ça qu'on peut toujours refaire une autre tranche d'analyse après. Si on remet cette formule en chantier, on peut continuer à la creuser. Mais n'empêche qu'elle est résolutoire. Et j'ai donné des exemples, moi, dans le livre que je vous ai cité, La Lue. J'ai donné un exemple de ma propre analyse où je résous par la formule un symptôme. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans son propre cas. On ne peut pas trouver la formule du fantasme, qui est une formule quasi-écrite et qui doit être écrite à la fin, jusqu'à y compris une écriture même comme celle-là. Hein, parce que c'est vers ces questions-là que nous conduit l'analyse, la psychanalyse de Freud et la psychanalyse que Lacan prolonge. C'est la psychanalyse de Freud que Lacan prolonge jusque-là. Donc dans la psychanalyse, si on ne rencontre pas tout ça, c'est parce qu'on est très très loin du début de l'analyse. Alors vous voyez, moi les gens qui me disent « Vous me parlez de ça, quel est le rapport que ça avec la clinique et tout ça ?» Je dis « Mais bon, bah, écoutez, je ne veux pas vous être méchant, je ne veux pas vous insulter. C'est ce que vous voulez. » Si vous en êtes encore là, vous avez le droit, hein. Il faut le temps. Bon. Mais le problème, c'est que si vous ne voyez pas le lien que ça a avec votre analyse, eh ben, c'est que votre analyse n'est pas encore arrivée là. Bon. Donc j'essaye de dédogmatiser les mathématiques. C'est-à-dire que j'essaye de parler ces choses dans ces livres, d'écrire et de dessiner, pour dédogmatiser cette activité mathématique dogmatique. Le dogmatisme, je le mets dans les mathématiques, et la psychanalyse n'est pas une mathématique, puisque la psychanalyse, c'est une dédogmatisation. Bon. Freud, il a tendance à dogmatiser, parce que justement, il est beaucoup plus fort du côté de la parole, du côté de l'écrit, et c'est Lacan qui est le champion du côté de la parole. voyez, Freud, il a développé. C'est pour ça que Lacan parle de l'instance de la lettre, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit, notez bien ça. Pourquoi Lacan, il dit ça parle le corps, il ne dit pas ça écrit. Ben, le corps, il écrit. Mais le chemin de l'analyse, c'est le transformer cet écrit en un ça parle, le faire parler. C'est-à-dire le arriver à écrire pour parler, pour transformer sa façon de parler. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là parce qu'il est 10h15 et je vous propose la semaine prochaine de finir le cycle avant le mois de juin.